Il est tout juste 4 heures en temps universel, 6 heures ici à Paris, vous êtes sur Radio France Internationale. Gaëtan Plenet vous accompagne. Bonjour Gaëtan.
Et bonjour Edouard, bonjour à tous.
Votre journal d'abord est à la une, Paris qui riposte.
Et rappelle son ambassadeur à Alger pour consultation. La France qui expulse aussi 12 agents algériens. 12 comme le nombre de fonctionnaires français eux-mêmes expulsés du sol algérien. On revient sur cette nouvelle crise diplomatique dès le début de ce journal. Ça ne s'arrange pas non plus entre Washington et Pékin sur fond de guerre commerciale cette fois. La Chine annonce geler toutes les livraisons d'avions Boeing qui comptaient beaucoup pourtant sur le marché chinois. Les syndicats de Stellantis très remonté. Hier, les actionnaires du groupe automobile ont validé la rémunération de l'ex-patron Carlos Tavares. 35 millions d'euros en tout pour l'année 2024. C'est 350 fois plus que le salaire moyen des employés. On va parler aussi de la visite à Niamey aujourd'hui du ministre nigérian des Affaires étrangères et puis du Paris Saint-Germain qui s'est fait peur, très peur hier soir. Le club parisien s'est incliné face à Aston Villa mais se qualifie quand même pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Qu'il semble loin ce coup de téléphone entre les présidents français et algériens, c'était pourtant il y a un petit peu plus de 2 semaines. Maintenant, les deux pays relançaient le dialogue après des mois de tensions. Quelques jours plus tard, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, se rendait à Alger pour acter ce réchauffement des relations. Mais elles sont à nouveau glaciales. Alger a mis sa menace à exécution en expulsant hier 12 fonctionnaires français. Paris a immédiatement répliqué en annonçant à son tour l'expulsion de 12 agents algériens. Le chef de l'État français va également rappeler l'ambassadeur de France à Alger pour consultation. Bref, la crise s'envenime, Charlotte Urien-Tomaca.
Alors qu'il avait laissé manœuvrer jusque-là le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, c'est bien d'Emmanuel Macron qu'est venue la riposte française ce mardi. Car la France a choisi de franchir une étape supplémentaire en annonçant le rappel à Paris pour consultation de l'ambassadeur de France à Alger, en plus de l'expulsion miroir de 12 ressortissants algériens. Le président français a pris la plume pour exprimer sa consternation après ce nouveau brusque coup de froid entre les deux pays, alors qu'il y a 15 jours, un appel entre Emmanuel Macron et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune avait réchauffé les relations après des mois de crise. Pour l'Élysée, je cite, « les autorités algériennes prennent la responsabilité d'une dégradation brutale de nos relations bilatérales, tout en appelant Alger à faire preuve de responsabilité » pour reprendre le dialogue. Dans son communiqué de presse, l'Élysée explique également que l'expulsion de ces Français méconnaît les règles élémentaires de nos procédures judiciaires et la qualifie d'injustifiée et d'incompréhensible.
Et il est inadmissible que la France soit un terrain de jeu pour les services algériens, déploré hier soir le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, c'était sur le plateau de CNews. Si jamais l'Algérie choisit l'escalade, il faudra que nous accompagnions cette escalade sans avoir peur, plaide-t-il. Le secrétaire d'État algérien chargé de la communauté internationale à l'étranger, estime pour sa part que c'est justement Bruno Retailleau et ses services qui assument entièrement la responsabilité de cette nouvelle situation. Et les sujets de divergence ne manquent pas depuis quelques mois entre la France et l'Algérie. Il y avait eu, on s'en souvient, la reconnaissance de la souveraineté marocaine du Sahara occidental, des bisbilles au sujet migratoire, mais aussi le délicat dossier Boualem Sansal, l'auteur franco-algérien condamné à 5 années de prison par la justice algérienne. Ses filles s'expriment dans une tribune sur le site du Figaro. Elles appellent Emmanuel Macron à obtenir sa libération au plus vite. Pour elles, la situation diplomatique est responsable de celle de leur père qu'elles qualifient d'otage d'un contentieux qui ne le concerne pas. Autre pays aux tensions exacerbées ces dernières semaines, les États-Unis et la Chine engagés dans une guerre commerciale alors que Donald Trump impose désormais 145% de droits de douane sur une grande partie des importations de produits chinois. Ça exerce une certaine pression sur le commerce extérieur et l'économie de notre pays, a reconnu le commissaire adjoint du Bureau national chinois des statistiques. Et Pékin réplique, Guillaume Nodin dans le viseur, Boeing.
L'avionneur américain, plus gros exportateur du pays, n'avait certainement pas besoin de ça. Après des années difficiles marquées par plusieurs accidents et des questions récurrentes sur la place respective de la sécurité et de la rentabilité dans ses priorités, Boeing se retrouve temporairement privé de son plus gros débouché, celui sur lequel il compte pour les années à venir, le marché chinois. Les autorités de Pékin ont demandé aux compagnies du pays de ne plus passer de commandes à Seattle et aussi de mettre en pause toutes les réceptions d'appareils prêts à être livrés. Le message est parfaitement limpide, il s'agit s'agit de mettre la pression sur les États-Unis et notamment sur Donald Trump dans la guerre commerciale lancée par le président américain. Celui-ci a annoncé 145% de droits de douane sur les produits chinois et la Chine a répliqué par 125% sur les produits américains. Cela va évidemment renchérir considérablement le prix des avions. Cela montre surtout que la Chine n'entend pas céder ou baisser les yeux dans ce duel de géants. Les États-Unis non plus. La Maison-Blanche se contente de dire sobrement que la balle est dans le camp de Pékin pour entamer des négociations. En attendant, l'action Boeing a perdu 3% hier à Wall Street. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Mais il n'y a pas qu'avec la Chine que la guerre commerciale fait rage, car ces nouveaux droits de douane américains sont aussi imposés à la quasi-totalité des pays de la planète. Et le secteur automobile en fait les frais, plus 25% pour les voitures importées aux États-Unis, même si Donald Trump n'exclut pas un assouplissement à venir. Mais en attendant, c'est dans ce contexte que le groupe Stellantis tenait hier son assemblée générale à Amsterdam, aux Pays-Bas. Il en a évidemment été question de cette guerre commerciale, mais il y avait un autre sujet, délicat en apparence, mais pas tant que ça finalement, pour les actionnaires du groupe qui ont largement validé la rémunération de l'ancien patron du groupe, Carlos Tavares. Les actionnaires alignés, pas les syndicats, Justine Fontaine.
Comme l'an dernier, près de 70% des actionnaires ont validé la rémunération de Carlos Tavares, qui a été poussé vers la sortie il y a quelques mois après une forte baisse des bénéfices du groupe. L'ancien patron de Stellantis part finalement avec un chèque de 35 millions d'euros en tout pour l'année 2024, ce que regrette Cédric Brun du syndicat CGT Stellantis en France.
Cette année, c'est quand même catastrophique, les résultats, moins 70%, avec des énormes problèmes qualité. Depuis la fusion avec le groupe Fiat, etc., qui a donné le nom Stellantis, 130 000 postes supprimés. Pour un homme qui a ce bilan-là, quand même, il y a de quoi être scandalisé. Hein.
Le vote des actionnaires n'était que consultatif. C'est la direction du groupe qui avait le dernier mot. Pour Benoît Vernier, du syndicat CFDT, cela doit malgré tout poser la question de l'encadrement des salaires des patrons.
Tant qu'il n'y aura pas des règles qui seront définies pour limiter les écarts entre les rémunérations des salariés et les rémunérations des grands patrons, chaque entreprise fera comme elle veut.
La rémunération de Carlos Tavares a baissé par rapport aux années précédentes, mais elle reste 350 fois plus élevé que le salaire moyen des employés du groupe à travers le monde. Stellantis doit désigner un nouveau patron d'ici la fin du mois de juin.
Justine Fontaine du service économie de RFI. C'est une étape importante dans notre voyage commun vers un monde plus sûr, se réjouit le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Cette nuit, après quasiment 3 ans d'âpres négociations, les pays membres de l'OMS ont approuvé par consensus un projet d'accord visant à mieux se préparer et mieux lutter aussi contre les futures pandémies. Le texte prévoit notamment que l'OMS reçoive rapidement 10% de tous les vaccins produits en cas de nouvelle épidémie comme le Covid-19. Mais c'est encore au stade de projet. Le texte doit être formellement adopté le mois prochain lors de l'Assemblée générale de l'organisation. Il est 5h07 à Niamey où est attendu aujourd'hui le ministre nigérian des Affaires étrangères Youssouf Tougar devrait remettre un message spécial au chef de la junte nigérienne, le général Tiani, de la part du président Bola Tinubu. Depuis le coup d'état de juillet 2023 à Niamey, les relations entre le Nigeria et le Niger se sont fortement détériorés, sans être complètement rompus pour autant. Alors le ton devrait être à l'apaisement ce mercredi lors de cette visite. Les attentes depuis Abuja avec Moïse Gomis.
Selon des sources diplomatiques, les échanges devraient porter sur la situation sécuritaire le long de la frontière entre le Nigeria et le Niger. Le ministre des Affaires étrangères, Youssouf Tougar, pourrait aborder les solutions alternatives bilatérales suite au départ du Niger de la force conjointe multinationale sur le bassin du lac Tchad. L'enjeu sera aussi économique. La délégation nigériane devrait prôner la réouverture des marchés transfrontaliers sur le corridor arrimant les États du nord du Nigeria aux régions de Maradi et de Zinder, les deux greniers agricoles du Niger. La question de l'énergie pourrait être à l'ordre du jour alors que le Niger a subi récemment une grave pénurie de carburant et les deux voisins pourraient aussi évoquer leur projet de gazoduc devant les connecter à l'Algérie. Les Nigérians devraient faire part de l'avancée des travaux du chemin de fer reliant Maradi à Kano dont la livraison est prévue en 2026. Un investissement où le Nigeria contribue à hauteur de 2 milliards de dollars dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Moïse Gomis, Abuja, RFI.
Un petit poisson, mais gros sujet, le lançon au cœur des débats depuis quelques mois à la Cour permanente d'arbitrage de La Haye. C'est en fait le premier procès du Brexit. L'Union européenne accuse Londres de ne pas respecter l'accord de divorce en lui refusant l'accès à ses eaux pour y pêcher ce poisson, aussi surnommé anguille des sables. Un poisson consommé par les oiseaux marins et pêché en particulier par le Danemark. Depuis l'an dernier, l'Angleterre et l'Écosse interdisent sa pêche pour protéger la biodiversité. La cour doit rendre son jugement d'ici la fin du mois. Notre correspondante en Angleterre, Emeline Vin, s'est rendue dans la réserve naturelle de Bempton Cliffs, dans le nord-est du pays. Là-bas, malgré la colère de l'UE, l'interdiction de la pêche du lançon a déjà des effets positifs. Reportage.
Au bord des falaises de la réserve de Bempton, les goélands batifolent. Dave O'Hara, le directeur du site, observe les petites mouettes tridactyles à pattes noires.
L'accès à la chaîne alimentaire est essentiel pour la reproduction. L'année dernière, les mouettes tridactyles ont enregistré leur meilleure reproduction depuis des années. Nos oiseaux profitent de l'arrêt de la pêche au lançon.
Depuis un an, interdiction de pêcher cette petite anguille prisée des oiseaux, des harengs ou de certains cétacés et utilisée comme nourriture industrielle pour animaux. La Société royale de protection des oiseaux militait depuis 25 ans.
Cela a affecté de nombreuses espèces menacées. Le macareux moine, le petit pingouin, le fou de Bassan et tout le reste de la chaîne alimentaire. Nos oiseaux sont déjà menacés par le dérèglement climatique. Adopter une pêche raisonnée, c'est l'un des seuls leviers efficaces dont on dispose.
Un tiers des oiseaux maritimes britanniques figurent parmi les espèces menacées. Alors forcément, Dave O'Hara espère que la cour d'arbitrage va maintenir l'interdiction de la pêche au lançon.
Nous savons que beaucoup de nos homologues en Europe soutiennent cette mesure. Il faut une stratégie de long terme pour protéger les oiseaux marins. Et cela requiert une coopération internationale.
La pêche du lançon dans les eaux britanniques rapporte près de 50 millions d'euros par an aux pêcheurs européens. Emeline Vin, de retour de Bempton, RFI.
Et au Royaume-Uni toujours, qu'est-ce qu'une femme ? C'est à cette question que la Cour suprême va devoir répondre aujourd'hui. C'est en fait une association écossaise qui avait lancé le mouvement il y a quelques années en estimant que dans la loi, la définition devait se baser sur le sexe biologique et non pas sur le genre. Les associations LGBT craignent que cette définition, si elle est confirmée, ne complique la vie des femmes transgenres en leur empêchant notamment l'accès à certains lieux comme les centres d'hébergement réservés aux femmes. On termine avec du football. Le PSG se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Pourtant, les Parisiens ont perdu hier soir en quart retour sur la pelouse d'Aston Villa, 3-2. Sauf qu'à l'aller, c'est le Paris Saint-Germain qui s'était imposé 3-1. Alors, la différence de but suffit. Le club français file en demi après avoir quand même échappé à la catastrophe. Il faut bien le reconnaître, Cédric de Oliveira.
Le PSG n'est vraiment pas un club comme les autres. Quelle que soit sa domination, il arrive parfois à se compliquer la tâche tout seul. Achraf Hakimi, pourtant un des buteurs parisiens, n'a pas passé un bon moment à Villa Park.
On savait qu'aujourd'hui c'est un match pour souffrir. On a souffert un petit peu à cause de nous. On est content de comment l'équipe a réagi ça. Et on devait continuer. Et pour gagner cette Champions League, on devait souffrir.
Vainqueur 3-1 au match aller, menant très vite au score 2-0. Les Parisiens ont ensuite perdu le fil du match, s'inclinant finalement 3-2. Mais pour le Géorgien Kvaratskhelia, il faut se satisfaire de cette qualification.
C'était un match très compliqué, mais le plus important, c'est qu'on soit en demi-finale. On doit juste continuer à se battre et tout ira bien.
Après cette grosse frayeur, les Parisiens atteignent tout de même le dernier carré de la Ligue des Champions pour la quatrième fois en 6 ans. Soulagés, ils attendent maintenant le Real Madrid ou Arsenal.
La vérité, on s'en fout. Désolé pour la parole. Pour gagner cette compétition, on devait jouer contre les meilleurs. Et les deux sont de grandes équipes et on est prêts pour ça.
Voilà les deux scénarios pour le PSG. Une nouvelle escapade anglaise ou des retrouvailles avec Kylian Mbappé. Cédric de Oliveira, Birmingham, RFI.
Kylian Mbappé désormais au Real et il aura fort à faire ce soir pour son quart retour face à Arsenal. À l'aller, les Anglais l'avaient emporté 3-0. La revanche, ça commence à 19h temps universel. Même heure d'ailleurs pour l'Inter Milan face au Bayern Munich. Avantage aux Italiens pour l'instant. 6h13 à Paris.
Gaëtan Plenet.
Le retour de l'actualité africaine dans un gros quart d'heure. D'ici là, on sera en Colombie pour revenir sur ce meurtre, un de plus, qui frappe la communauté LGBT. Celui de Sarah Milrey, une femme transgenre de 32 ans, torturée, jetée à l'eau, les bras et les jambes cassés. Les images de son agonie ont été publiées sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, devenus parfois vecteurs de haine, omniprésentes dans notre société moderne. On en parlera dans le Conseil Santé du jour avec Caroline Paré et son invité. Et puis, autre invité sur RFI, invité culture cette fois, plus légèrement. Le réalisateur Michel Leclerc qui viendra nous parler de son film Le mélange des genres, ça sort aujourd'hui en France. Mais d'abord, 12 milliards de dollars en plus depuis hier dans les caisses argentines. Un chèque du Fonds monétaire international, le premier car il y en aura d'autres, pour un montant de 20 milliards au total. C'est un prêt du FMI pour appuyer le plan de stabilisation de l'économie du président ultralibéral Javier Milei. Et il faut avouer qu'il n'a pas chômé depuis son arrivée au pouvoir fin 2023. Il a lancé son fameux plan tronçonneuse, taillant d'un quart dans les dépenses publiques, supprimant la moitié des ministères, mais faisant aussi disparaître plus de 40 000 postes de fonctionnaires. Le démantèlement de l'État comme programme de gouvernement, ça fait disparaître aussi des politiques publiques. Reportage à Buenos Aires de Théo Conscience.
Ils m'ont viré. Ils m'ont viré après 25 ans, répète Noria Faria sans larmes. Devant la porte du ministère du Capital Humain à Buenos Aires, des agents de police contrôlent l'identité des travailleurs.
Ils nous traitent comme des délinquants sur le lieu où nous sommes venus travailler pendant des années.
Le vendredi précédent, à 22h30, plus de 1800 employés du ministère ont appris par mail qu'ils étaient licenciés.
C'est d'une cruauté, nous n'avons pas été convoqués, personne n'assume ses responsabilités. On a simplement reçu un mail générique qui dit qu'on est licencié.
Nora ne recevra aucune indemnité. En tant qu'agent contractuel de la fonction publique, elle a enchaîné pendant plus de deux décennies des contrats d'un an renouvelable. À son arrivée au pouvoir, le président Javier Milei a réduit la durée de ses contrats à 3 mois et à chaque échéance, des milliers de postes sont supprimés.
En décembre dernier, ils nous ont fait passer un examen en nous promettant que si on le validait, notre contrat serait renouvelé pour un an.
Malgré cette promesse, le poste de Lucía vient d'être supprimé. Comme 96% des quelques 40 000 fonctionnaires soumis à ce test d'aptitude, elle l'avait pourtant validé.
Ce test est une honte. C'était juste une manière de nous mettre sous pression. Je pense qu'ils nous sous-estiment tellement qu'ils pensaient que nous n'allions pas le valider. C'est pour cela qu'ils n'ont pas tenu leur promesse sur les renouvellements de contrats.
Après 11 ans dans la fonction publique, Lucía se retrouve donc à chercher du travail en pleine crise économique.
On est touché personnellement car il faut qu'on paye notre loyer, qu'on achète à manger, mais à côté de cela, en licenciant des fonctionnaires, ils sont en train de supprimer de facto des politiques publiques. Et il faut comprendre que cela signifie que les personnes vulnérables n'auront plus personne à qui s'adresser.
Comme Lucía et Nora, Gustavo Grosso travaillait pour un département du ministère chargé d'accompagner et de subventionner des projets communautaires. Le département a été dissous et l'intégralité de ses employés licenciés.
Les projets sur lesquels je travaillais avaient pour but de financer des bibliothèques, des radios communautaires ou des terrains de foot pour des clubs. Les conséquences sont considérables et elles seront de plus en plus criantes dans le futur.
En tant qu'anarcho-capitaliste, Javier Milei rêve d'une société sans État où les relations humaines seraient entièrement régulées par la main invisible du marché, rappelle Laura Vichaflor, qui a elle aussi vu son poste supprimé.
Chaque fonctionnaire en moins fait reculer la présence de l'État sur le territoire et participe donc à l'affaiblissement de l'État qui est au cœur du projet politique de Javier Milei.
Pour l'année 2025, Javier Milei a annoncé la couleur. La Deep Motosierra, ou tronçonneuse profonde, supprimera ou fusionnera 60 organismes de l'État. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Un reportage à retrouver sur RFI.fr. C'est un fait divers qui choque en Colombie, le meurtre brutal d'une femme transgenre. L'émotion est d'autant plus vive que la scène a été filmée. Des rassemblements en mémoire de la victime ont eu lieu dans le pays où vous êtes notre correspondante Najet Benrabah. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Alors les faits d'abord, Najet, que sait-on de ce qui s'est passé ?
Alors, Sarah Mireille, la femme donc transgenre de 32 ans, a été retrouvée agonisant dans un affluent de la rivière qui traverse la ville de Bello. C'est une ville qui se trouve à la frontière nord avec Medellín. Donc, on sait qu'un groupe armé, l'a torturée avant de la jeter à l'eau avec les bras et les jambes cassés. Sarah s'est débattue alors pendant une heure dans l'eau polluée, accrochée à une branche pour éviter que le courant ne l'emporte et en appelant à l'aide. C'était le 4 avril dernier et Sarah Mireille a été transportée à l'hôpital, bien sûr, mais elle est morte le lendemain d'une crise cardiaque. Une vidéo, vous l'avez dit, de son agonie a été filmée et postée sur les réseaux sociaux, provoquant ainsi l'indignation dans tout le pays. Aussitôt, des rassemblements de soutien se sont donc multipliés dans plusieurs villes colombiennes pour demander la justice, mais aussi pour dénoncer ce qu'on nomme alors un transféminicide. C'est-à-dire que Sarah Mireille a été tuée parce qu'elle était une femme transgenre.
Oui, d'ailleurs, ce n'est malheureusement pas, Najet, le premier cas de ce genre en Colombie.
Oui, ce type de meurtre transphobe ou homophobe ne cesse d'augmenter depuis la fin de la pandémie de Covid-19. Écoutez Harley Cordoba Rodriguez, c'est le co-directeur des droits humains au sein de l'organisation Alliance Sociale LGBTQ+, d'Antioquia.
Alors, on tente de retrouver ce son, mais Najet, il expliquait qu'entre 2022 et 2023, on avait vu une augmentation de 200% des assassinats à Medellin. 26 morts violentes des membres de la communauté LGBTI en Colombie. La moitié de ces morts enregistrées à Antioquia et une grande partie d'entre elles aussi à Medellin et dans la vallée d'Aboura.
Exactement. Et surtout que le mode opératoire est régulièrement le même. Elles sont assassinées, soit asphyxiées, souvent torturées, les pieds poings liés, et on les retrouve soit jetées dans la rue ou dans des rivières et des courants comme ça.
Oui, comme le cas effectivement dont on parlait, celui de Sarah Milleray. Alors d'ailleurs, est-ce que les autorités ont réagi après ce nouveau cas?
Alors oui, il y a une enquête en cours officiellement pour retrouver les agresseurs. Il se dit qu'il y a des vidéos où aussi on peut les voir, mais pour le moment, on n'a pas de détails. Le gouvernement d'Antioquia a donc annoncé qu'une récompense de 50 millions de pesos, c'est à peu près 10 000 euros, sera offerte pour toute information utile. Et la communauté, bien sûr, LGBTQ+, demande maintenant plus de sécurité et un soutien des autorités et de la société. En Colombie, l'espérance de vie d'une femme transgenre est quand même de 30 ans. Et d'après le ministère de l'égalité, une femme transgenre est tuée tous les 3 jours.
Merci Najet Benrabah, correspondante de RFI en Colombie. Il est 6h20 à Paris.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Et ce sordide fait divers en Colombie le montre, hein, la haine existe encore, elle semble même partout à l'heure du harcèlement en ligne, des discours politiques clivants, une émotion universelle héritée de notre évolution et qui fut jadis cruciale pour la survie. Alors comment expliquer que la haine explose aujourd'hui dans nos sociétés modernes? Caroline Paré en parle avec son invité, membre de l'Association française de thérapie comportementale et cognitive.
Docteur Gérard Apfeldorfer, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes psychiatre psychothérapeute, la haine peut être considérée comme un symptôme de certaines maladies psychiques?
C'est une bonne question et beaucoup de psychiatres se la sont posée. Et la conclusion, finalement, la surprise générale d'ailleurs, c'était que c'est non. Il n'y a pas vraiment une... Par exemple, les terroristes, hein, il y a eu beaucoup d'études faites sur les terroristes, on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas de maladie mentale. Ils étaient tout à fait banals sur le plan psychiatrique, psychologique. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils avaient quand même un profil particulier dont on peut parler, avec un certain nombre de points de reconnaissance qu'on peut repérer, mais ça n'est pas de maladie mentale.
Quand on parle, par exemple, d'un psychopathe, il peut être animé par une haine intense. Est-ce que ça fait partie du schéma de la maladie quand même?
Alors les psychopathes, c'est encore autre chose. Ils ne sont pas toujours haineux, les psychopathes. C'est pas quelque chose qui les prend en définitive. Ils sont plutôt dans l'expérimentation de ce qu'ils font vis-à-vis des autres. Et en fait, ils prennent plaisir à la souffrance des autres. On s'est aperçu sur le plan neurophysiologique qu'on pouvait repérer les psychopathes justement parce que là où l'être humain habitué, banal si vous voulez, ressent un grand malaise, eh bien, à la place, le psychopathe ressent du plaisir.
Merci docteur Apfeldorfer. Vous êtes l'auteur du livre « Pourquoi tant de haine ?» publié aux éditions Odile Jacob. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on parle de la leptospirose, une maladie bactérienne qui est surtout transmise par les rongeurs, notamment l'eau souillée par l'urine des rats. On retrouve la leptospirose partout sur la planète et nous allons parler de sa prévention mais aussi de son diagnostic, ses symptômes et les complications à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
À tout à l'heure Caroline Paré. Place maintenant à l'invité culture de RFI avec un réalisateur assez équilibriste puisqu'il parvient à faire rire avec un quiproquo. Ça, vous me direz, c'est l'un des principes de la comédie. Oui, mais Michel Leclerc le fait en mettant en scène un collectif féministe et une fausse accusation de viol. Le sujet est très délicat, pas le plus comique a priori. Et pourtant, ça marche dans ce film. Le mélange des genres, ça sort aujourd'hui en France. Michel Leclerc est avec Isabelle Chenu.
Michel Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Dans Le mélange des genre, vous prenez à bras-le-corps, 8 ans après le mouvement MeToo, hein, la question du féminisme, peut-être aussi du masculinisme, dans une comédie policière où on voit une femme flic, Léa Drucker, infiltrée un groupe de féministes qu'elle soupçonne de complicité de meurtre. D'où vous est venue cette idée qui est quand même assez gonflée?
En fait, je suis comme tout le monde traversé par le mouvement MeToo depuis plusieurs années et en particulier à la place où je suis, qui est celle d'un réalisateur de plus de 50 ans, etc. Et donc j'avais besoin d'une certaine manière de clarifier mes pensées qui étaient parfois un peu confuses et contradictoires à travers une fiction. Et je me suis dit, comme mon moyen d'expression naturel, c'est la comédie, j'ai envie vraiment de faire une fiction autour de ces sujets et autour de personnages différents qui pensent des choses différentes, mais toutes autour de la question du féminisme.
Quelqu'un parmi nous les a prévenus.
Attends, genre quoi, il y a une taupe là ?
Tolérance zéro pour les balances.
Tu peux nous dire où t'étais hier ?
J'ai déposé plainte contre mon violeur.
Il est là, debout, au bar, là.
Simone, donc Léa Drucker, va faire une rencontre fortuite. En fait, elle va, pour se sortir d'un mauvais pas, accuser faussement de viol un homme qui est un comédien joué par Benjamin Laverne.
Oui.
Ça ne vient pas tout de suite, mais c'est un ressort important du film.
Oui.
Tout en précisant, et il faut le dire, que dans votre film, vous précisez que les fausses accusations de viol ne concernent que 2%.
Oui,
affaires.
Absolument. Mais pour moi, la fiction, elle est là pour essayer de voir l'improbable, enfin. Et surtout, cette accusation en soi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle produit. Comment mes personnages principaux réagissent, comment ça fait bouger leur ligne, comment cette flic qui, au départ, n'est pas du tout féministe et qui est même plutôt hostile aux idées du collectif qu'elle infiltre, va, à l'occasion de cette accusation, progresser dans ses idées et même avoir les yeux dessillés sur sa propre situation dans sa famille, dans son métier. Et c'est ce qui provoque cette évolution du personnage. Et de la même façon, ce personnage de Benjamin Laverne, qui se dit déconstruit et qui est en fait un petit peu dépressif, à l'occasion de cette accusation, va bouger aussi sur ses lignes. Et ce qui m'intéresse, c'est pas l'accusation en soi, c'est comment ils bougent de leur ligne.
Je vous préviens, il se passera rien entre nous.
Non, bien sûr que je passera rien. Il se passe jamais rien avec moi. C'est même ma première qualité.
Michel Leclerc, vous avez projeté votre film Le Mélange des genres un peu partout en France. C'est un film qui fait débat.
Oui, très souvent, le débat s'enclenche à la fin du film et à la limite, j'ai plus besoin de parler. C'est plutôt les femmes qui réagissent ou qui prennent la parole après le film. Moi, je suis très content de ça. Je pense que si un film, quel qu'il soit, déjà, si on passe du bon temps à le voir, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est si un film suscite du débat, moi j'ai l'impression d'avoir gagné mon pari. La fiction, elle est là pour ça.
Michel Leclerc, ouais. Merci.
Merci à vous.
Réalisateur du film Le Mélange des genres, ça sort aujourd'hui en France. Le retour de l'actualité africaine dans 3 minutes. Mais d'abord un petit peu de musique avec le chanteur français Mathieu Chédid, M, qui déclare sa flamme au Mali avec le projet L'Amo Mali. On y trouve notamment la chanteuse musicienne malienne Fatoumata Diawara, le roi incontesté de la kora, le regretté Toumani Diabaté qui nous a quitté en juillet dernier, mais aussi son fils, la star de l'afropop Sidiki Diabaté. Voici Je suis Mali sur RFI, c'est dans notre playlist du mois.
Allongé seul sur mon lit, j'ai le mal du pays, j'ai le cœur qui s'entête quand j'ai l'âme au Mali. C'est comme un mal de tête, une mélancolie qui me dit je suis Mali, je suis Mali. Le corps à Paris, mais j'ai l'âme au Mali et le cœur ébloui dans l'infini Sahel. Que ta lumière est belle, ta magie. Je suis Mali, je suis Mali, je suis Mali, je suis Mali. Dans cet que ta lumière est belle, voyage en solitaire pour toucher ta magie. Noir ou blanche, qu'importe, le mélange est inouï, vu d'ici. Je suis Mali,
Bissassi, Mali, Bissassi.
Je suis Mali,
Bissassi, Mali, Bissassi.
Je suis Mali,
Bissassi, Mali, Bissassi.
Je suis Mali.
Bissassi, Mali, Bissassi.
Je suis Mali.
Je suis Mali, M et le projet Lamo Mali, c'est dans notre playlist du mois. À retrouver sur RFI Musique. À suivre le journal africain français, sauf si vous nous écoutez en Swahili en Afrique de l'Est. Là, vous avez rendez-vous avec 30 minutes d'information en Swahili. Très bonne journée à tous.
Ce mercredi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Gerbrandt.
À l'heure où des milliers de migrants tentent de franchir la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni, nous serons à Londres pour voir comment se passe l'insertion de celles et ceux qui obtiennent le statut de réfugiés. Et nous parlerons, avec la revue L'Histoire, des immigrés britanniques qui faisaient le chemin inverse au XIXe siècle, les Denteliers de Calais.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU, sur RFI.